Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à un autre épisode de Ciné-Histoire. Et je ne suis pas seul cette semaine parce que j'ai deux co-animateurs avec moi aujourd'hui. On retrouve d'abord Alexandre Tardif qui... Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Qu'est-ce qui se passe? T'écoutes plus de vue?
Ouais, c'est la vie, hein?
Ouais, c'est ça. T'es tanné de voir des mauvais films français.
Ouais, c'est ça.
Je t'en ai donné un bon là, cette semaine. Un bon film français ou peut-être pas. Hein? On verra l'opinion de Maxime qui est avec nous. Salut Max, ça va bien?
Ben oui, toi?
Ben oui, merci. Merci d'être là aujourd'hui. J'espère te retrouver aussi à d'autres épisodes, d'autres éditions plus tard. Là. Je sais que t'es une grande cinéphile un peu comme lui, là, ouais, Alex T. Musique.
Peut-être que je vais venir faire un tour, là, une fois de temps en temps.
On est comme le barème des cageois.
Ben c'est ça, ça en prend, parce que moi aussi, là, je vis dans ma tour d'ivoire de cinéphile qui écoute 600 films par année, là, puis qui, même dans les mauvais, il trouve du bon, puis même dans les bons, il trouve du mauvais. Fait que ça fait du bien d'avoir une diversité d'opinions. Aujourd'hui, à l'émission, mais quand même un gros programme. J'ai un chroniqueur aussi invité, qui est Maxence Gagné. On va parler du film Canis attaqué, 270 ans de résistance d'Alanis Obomsawin. Ce sera vers la moitié de l'émission environ. Puis on a... je vais vous parler en fait de deux nouveautés. Une qui sera plus à la fin de l'émission, qui et Vous n'êtes pas seul, qui a pris l'affiche aujourd'hui à la Maison du cinéma et dont l'équipe du film viendra, je crois, à la Maison du cinéma demain soir, si je ne m'abuse. Sinon, on va parler aussi du deuxième acte que vous avez vu aussi. On va pouvoir en discuter. Divergence d'opinion, enfin, parce que c'est pas pour tout le monde. On s'entend, ce film-là, de Quentin Dupieux. Max, tu nous as préparé une petite chronique aujourd'hui.
Ben oui, j'avais envie là, de venir vous parler un petit peu, là, de mettre une petite touche féminine là, dans ton podcast. Fait que je vais venir vous parler du test de Bechdel. Ça va m'amener à vous à avoir plein de belles réflexions avec vous aujourd'hui. Là.
Ah, c'est génial. Toi, t'as rien préparé,
non.
Comme d'habitude. C'est ça,
t'es juste fidèle à mon habitude.
T'es le comic relief de l'émission. C'est parfait. Je commence juste à en mentionner quelques petites nouvelles brèves. Xavier Dolan, qui a annoncé sa retraite il y a un an ou deux, je crois, sort de sa retraite et puis fait un nouveau film. Fait que ça n'aura pas duré super longtemps. Quoique son dernier film date quand même de 2019, je crois. Fait que tu sais, il a fait une série télé aussi, là, mais en tout cas, une petite retraite pour notre trentenaire québécois. Sinon, il y a aussi une nouvelle initiative pour, parler culture un peu avec les nouveaux arrivants dans des programmes de francisation. Il y a 33 salles de cinéma qui vont se mettre à projeter gratuitement des films québécois, justement dans le cadre de ces cours-là de francisation et tout. C'est quand même cool. On dit toujours qu'on n'est pas capable de rejoindre notre public québécois pour les attirer en salle pour voir nos films. Mais peut-être qu'on va attirer les nouveaux arrivants, on ne sait pas. Je l'espère. Les nouveautés qui prennent l'affiche aujourd'hui. Attendez, il me reste une petite nouvelle brève. Je rappelle, je l'avais mentionné plus tôt dans les autres émissions, mais ce soir, il y a une captation de podcast à la Maison du cinéma. Une grande entrevue réalisée par les gars d'Opération Beurre de Cinoche, Guilla Saint-Cyr et Julien Bernatché. Et c'est Guy Jodoin qui fera une petite entrevue rétrospective de carrière. Il reste encore quelques billets, j'ai cru comprendre. C'est ce soir à 18h30. Vous voulez être là. Vous voulez pas manquer ça. Vous allez être là aussi.
Oui.
Fait que c'est très cool. Moi, je suis toujours un cas incertain. À cause de la marmaille qui est malade.
C'est pas de même que tu les appelais tantôt.
Non. Ben ça, hein, c'est des petits noms d'amour. Je veux juste faire un petit tour d'horizon des nouveautés avant qu'on parle justement du deuxième acte. Il y a quand même un film assez niché puis assez bizarre qui sort, c'est Rumours, un film canado-anglais avec Cate Blanchett et Roy Dupuis, puis d'autres acteurs québécois et internationaux. Le film a été présenté à Cannes, une très bonne réception critique, il s'est comme décidé sur le tard à la Maison du cinéma, on n'était pas trop sûr si on allait l'avoir ou pas, donc finalement, il a pris l'affiche, fait que allez voir ça. Sinon, qui dit octobre dit horreur, il dit nouveau film d'horreur, il dit franchise d'horreur, mais il y a Smile 2, qui est la suite de Smile, un film d'horreur Je sais pas, mais la critique est quand même pas négative. Mais tu sais, on l'a vu, les espèces d'images des gens qui sourient, puis en tout cas, plein de campagnes promotionnelles un peu weird. Là. Toi, t'aimes ça.
Je serai pas là.
Non, toi, je sais, tu seras pas là. Sinon, sur Netflix, il y a Woman of the Hour qui sort, qui est vraiment un concept particulier. C'est Anna Kendrick qui signe la réalisation. Anna Kendrick, c'est elle qui joue dans Pitch Perfect, là, puis une couple d'autres affaires. C'est son premier long métrage, puis elle s'intéresse à la télé, ben, au quiz, en tout cas, je sais pas, quiz télévisé de Dating Game des années 60-70, puis d'un tueur en série qu'elle est, qui est allé là-bas, puis qui kidnappait, je crois, des femmes qui participaient là, ou en tout cas, qui essayait d'en apprendre plus sur eux autres. Je connais pas trop le concept, là, j'avoue, puis il y a une sortie très limitée en salle, mais il sort aujourd'hui ou demain sur Netflix. Là, je pense qu'il y avait une sortie en salle une journée d'avance, mais bref, il va être disponible sur Netflix, puis les critiques sont quand même assez positives, donc je vais regarder ça. Puis sinon, il y a une comédie romantique avec Andrew Garfield et Florence Pugh, We Live in Time, qui prend l'affiche. Je ne suis pas le public cible, fait que j'aime mieux pas en parler. Mais ce dont j'ai envie de parler, ben, c'est le film de deuxième acte, qui est une nouvelle comédie française du prolifique Quentin Dupieux. Là, et je pèse mes mots avec prolifique. C'est son troisième film cette année. Puis il en sort pas mal, un à deux par année habituellement. C'est lui qui nous avait, en début d'année, ben, il est sorti l'année dernière en France, là, mais en début d'année, il nous avait offert Yannick, film d'une heure six, bien senti, très méta. Il nous avait offert aussi Dali. Une espèce, pas un biopic de Salvador Dali, mais une espèce de film un peu confus, un peu surréaliste, dans l'esprit des toiles de Dali, disons, et puis qui se prête bien à son espèce de comédie un peu méta et un peu burlesque un peu. Et puis là, ben, il arrive avec le deuxième acte qui a été présenté à Cannes un peu plus tôt cette année, encore une fois. Une autre comédie méta qui s'attaque cette fois aux acteurs, au cinéma en général, mais surtout au travail des acteurs et des actrices. Il y a plusieurs niveaux. Tu sais, c'est comme dur à résumer comme film. Essentiellement, ils sont en train de tourner un film, puis après ça, ils sont en train d'interpréter des personnages qui parlent de leur interprétation de la scène qu'ils sont en train de tourner. Ouais. Puis après ça, il y a un autre niveau méta qui se rajoute un peu plus tard, où là, c'est les personnages qui discutaient finalement des personnages, qui discutaient whatever. Puis tout ça a été fait par AI, finalement. Fait que la distribution est quand même solide, là. Il y avait justement le Yannick de Yannick qui revenait, Raphaël Quenard. Il y avait Louis Garrel, Léa Seydoux et j'ai oublié le quatrième, je crois que c'était... attendez, je l'ai ici.
Vincent
Lindon. Lindon, c'est ça, exactement. Lui aussi, grand comique français. Qu'en avez-vous pensé? Max, d'abord, vu que ça va peut-être être le contrepoids sur nous, parce qu'Alex et moi, on a bien aimé.
Moi, j'ai... détesté à partir de la deuxième minute.
Deuxième, Seigneur. Au moins, il n'est pas trop long, le film.
Non, ben, honnêtement, moi, j'ai trouvé ça long. J'ai pas aimé ça. J'ai pas compris le but. J'étais vraiment désintéressée, bien honnêtement.
OK.
Je comprends, par contre, pourquoi vous avez aimé ça. Je comprends le travail. Je comprends, mais j'aime pas ça. C'est, mettons, quelqu'un qui n'est pas habitué au cinéma, qui a le goût d'aller voir une petite comédie tranquille, allez pas voir ça. Ça va vraiment pas répondre à vos attentes. Une chose que j'ai pas aimée aussi, c'est que Raphaël...
Quenard.
Je trouve qu'il y avait vraiment... On dirait que c'était Yannick.
Ouais, ouais.
Genre, on dirait vraiment que c'était la même interprétation, c'était le même personnage, mais pas avec le même nom. Ça, j'ai pas full trippé non plus. Là, de...
Un delivery très pathétique, puis très mâché ses mots aussi.
Oh, oui, c'est ça.
Mais qu'est-ce que tu fous, là?
Ouais.
Moi, il me faisait penser à Dominique Paquet. Je sais pas pourquoi. Ah, ouais. Tu sais, quand tu regardes pas, là, il a la même voix que Dominique Paquet.
Ouais, je comprends.
Le même delivery aussi, là, mais ouais, ouais. Effectivement, mais... c'est même... il est capable d'avoir un range, mais effectivement, peut-être que dans le cinéma de Quentin Dupieux, peut-être qu'il est comme... OK, sois pathétique.
Moi, je sais pas si c'est comme Jean Dujardin, là, Jean Dujardin.
Ouais, ouais.
Mais tu sais, j'ai quand même réussi à m'attacher à des personnages. Tu sais, le personnage de Louis Garrel, je le trouvais quand même attachant. Tu sais, il était mignon, c'était correct. Le personnage aussi de Manuel Guillot.
Ouais, celui qui sert le vin, c'est ça?
Oui, celui qui sert le vin qui, avec brio. Là,
ouais.
J'ai quand même réussi à m'attacher à ces personnages-là. J'ai trouvé comique, j'ai trouvé attachant, mais c'est ça. T'sais, quelqu'un qui n'est pas habitué au cinéma, c'est vraiment pas une recommandation,
non,
selon moi.
Effectivement, c'est un très bon point. Toi, t'as aimé ça?
Oui, moi, j'aimais ça. T'sais, mais un, ben, j'ai tout le temps un peu pour m'en dire. Les films, là, tu sais, soit c'est des blockbusters, puis que tu vois le cash à l'écran, puis que. Mais quand t'as pas le budget, on dirait que ça tombe à plat quand t'essaies de faker, tu sais, d'être un blockbuster ou n'importe quoi. Là, on ouais. dirait que ça s'assume, c'est moins long, il y a peu de personnages, mais c'était super original, puis c'est là d'où vient souvent le. La liberté des plus petites productions. Là.
Ouais.
Fait que dans, niveau originalité, c'était. Il y avait probablement pas full plus original que ça. Là. Il y avait la deuxième layer du méta m'a bien surpris.
Ouais.
Sinon, ben, c'était, il y avait des bonnes jokes aussi. Là, il y avait j'ai eu des quelques bons rires aussi. Puis sinon, ben, il y avait tout le temps un genre de petit. Sourire en coin là, tout au long ouais. de l'écoute, même s'il n'y avait pas nécessairement des gags. Là.
Mm-hmm.
Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur ce film-là, là, sans trop spoiler? Tu en as parlé un peu. Peut-être que l'aspect que j'ai un petit peu moins aimé, c'était un petit. Ben, l'autre layer de méthode, c'était que c'était fait par le IA, mais le IA, il était comme. C'était un petit peu, ça m'a rajouté des petits flashbacks de Testament. Là. C'était comme
ouais,
une semi-critique sociale de l'IA. Ah, ça va bugger.
Ben, Dupieux, il aime ça faire des critiques. T'es dans Yannick aussi, je pense qu'il critiquait beaucoup l'auditoire puis les attentes de l'auditoire envers le divertissement. Tu sais, on dirait que c'est ça, il s'attarde à chacune des facettes du cinéma puis de ce qu'il aime, puis surtout de ce qu'il aime pas de
ben,
ça. Là,
oui, puis dans cela, il y a de la critique de, ben, du métier d'acteur puis de gérance aussi.
Ouais,
là.
Ouais.
fait, mais tu sais, au début, il y a tout l'aspect de l'homosexualité, la transidentité aussi qui en parle.
Ça,
mais tu sais, ça, moi, j'ai trouvé ça boiteux un
ouais,
peu.
Ouais, ça faisait testament, ça aussi, un petit peu au début. C'était maladroit, mais en même temps, c'était, vu que c'est comme le personnage pathétique qui raconte
ça.
On rit plus de lui qu'avec lui, mettons.
Qu'il y avait. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça pas super, contrairement à vous. On dirait, vu qu'il y avait. Ben, il y avait le genre. Le personnage woke qui était comme non, c'est pas comme ça, faut pas dire ça. Puis il y avait comme des petites jokes de comme c'est quoi, tu veux nous faire cancel? T'sais, j'étais comme des petits clins d'œil. Moi, j'avais pas trouvé trop cette bout-là. C'était plus la critique de l'IA.
Ça aussi. Mais tu sais, ça, c'est ça s'en vient de plus en plus. Là, puis ce sera pas le seul. Ben, c'est pas le seul film à en parler, puis ça sera pas le dernier non plus. Moi, j'ai toujours aimé ça aussi, les films théâtre. J'aime ça le théâtre, surtout en huis clos comme ça. Puis tu sais, où tu peux voir vraiment le range des acteurs. Là, c'était comme 4 grands acteurs, puis qui jouaient 2 à 3 personnages chaque. Là. Fait que, tu sais, c'est cool à même la même scène de voir ça évoluer. Mais effectivement, tu sais, on était très bullet point. OK, tu sais, toutes les sphères du métier d'acteur. Tu sais, t'as même la figuration, t'as même le method acting, t'as justement les agents, la carrière. Ah, le gros Américain qui m'appelle pour aller jouer dans son film. Puis là, tu sais, c'est comme, tu sais, t'avais beaucoup d'aspects.
On parle de la famille avec l'actrice qui parle à sa petite fille.
Ouais. Tu sais, je trouvais que... C'est ça, c'était peut-être un peu trop textbook là, de comme, OK, ça, on a parlé de ça, ça, on a parlé de ça. Mais tu sais, j'aime toujours mieux une proposition originale à une proposition très classique qui ferait la même, dont l'objectif est la même chose. Puis j'avais le même sentiment en terminant, j'avais le même sentiment qu'en regardant Triangle of Sadness, je sais pas si tu l'as vu, là, j'avais amené Alex le voir au cinéma. Tu sais, j'ai très l'impression, tu sais, dans Triangle of Sadness, ça critiquait beaucoup les riches et tout. Puis j'étais comme, hey, c'est une gang de riches qui ont... payer des millions pour faire un film pour rire des gens riches. Ouais, j'avais un peu le même feeling avec ce film-là, du genre, on rit des acteurs, mais en même temps, c'est des acteurs qui contribuent à ça, tu sais, qui sont dans la game. Tu sais, c'est des acteurs qui ont joué avec des grands réalisateurs, justement. Tu sais, j'ai plus l'impression que c'est attends, comment j'avais noté ça? C'est ça, c'est plus fait avec une autodérision qu'un vrai but moralisateur de faire comme, hey, les acteurs, c'est tout des caves. T'sais, c'est pas tant ça, c'est plus comme, hey, on va rire un peu de nous autres, mais on va prendre le chèque qui vient au bout quand même. Là, fait que, y avait ça d'intéressant, puis j'ai l'impression que c'est un peu ça que Quentin Dupieux aussi il fait avec ça. C'est comme, je vais rire du métier d'acteur parce que c'est moi qui gère des acteurs, parce que sûrement je suis frustré d'autres acteurs que j'ai eu à gérer, mais globalement, ça me prend des acteurs, sinon on m'a filmé rien. Puis il a déjà filmé rien. Il a fait un film qui s'appelle Non-Film, qui est très, très... méta. Il a fait son premier film qui a pogné, il s'appelait Rubber, qui est un pneu qui tuait des gens. Fait que, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est comme, il essaie des concepts, puis il essaie de changer un peu les cadres. Puis je vous conseillerais en terminant d'aller voir son vidéoclub. Tu sais, Combini fait ça, où il se promène dans un club vidéo, puis il check des films. Puis il en a fait deux parce que la première fois, il s'est, ben, la deuxième fois, il s'est excusé de son premier parce qu'il faisait juste insulter tout le monde. Il faisait juste prendre des films. Ah, ça, c'est de la merde. Ah, ça, c'est de la merde.
Alex, il aimerait ça.
Ouais, c'est ça. Fait qu'il en a fait deux. Il en a fait un où il dit moins de la merde des autres. Mais c'est ça, c'est une personnalité très volubile puis qui aime ça, justement, brasser ou essayer de brasser un peu, mais il sait qu'il n'y a pas la stature des grands non plus. Fait que si ça vous intéresse, ce type de comédie méta-là, ben, c'est pour vous. Mais effectivement, si vous voulez juste une comédie low-brainer ou tu sais, juste une comédie accessible, ouais. Ce qui est quand même pas un gros critère, là, mais tu sais, je pense pas que c'est ça, ça va être votre tasse de thé. Mais allez voir ça ou pas. Il y a beaucoup d'offres quand même cette semaine. Donc voilà, c'était le deuxième acte de Quentin Dupieux. Au retour, on parle de ce fameux indice de Bechdel, là, je crois bien que ça se prononce ainsi. On revient dans quelques instants.
Un jour, je vais faire un film. Je ferai la prise de son. La réalisation.
Vous êtes de retour à Ciné Histoire. Et puis là, ben, c'est le temps de se faire sermonner, crois. Là. C'est le temps de se faire montrer que tous les films qu'on aime, dans le fond, ben, on n'a pas raison de les aimer, je crois. Bien, c'est ça, là, ta chronique. Ça.
C'est exactement ça. C'est du gros shaming sur vos films là, que vous aimez tant. Mais non, ben non. Dans le fond, moi, je viens vous parler là, du test de Bechdel. Ça fait pas longtemps que je connais ça. En fait, là, ça va faire à peu près un an là, quand je faisais des recherches là, par rapport... parce qu'à mon travail, il faut que je fasse des posts Instagram féministes. Donc, ça faisait partie de mes posts.
Ouais.
Le test de Bechdel, c'est quoi, en fait? Ben c'est un test qui a comme objectif de mettre en lumière la surreprésentation des personnages masculins et ou la sous-représentation des personnages féminins dans les œuvres de fiction, comme dans les séries télévisées ou les films. Ce concept-là, dans le fond, c'est la dessinatrice Alison Bechdel qui, en 1985, a publié une comic strip intitulée « The Rule ». Ça, dans le fond, c'est on voit là, deux femmes qui décident d'aller voir un film et l'une des femmes dit « OK, oui, nice, mais il faut que ça respecte mes règles. » Donc, ils regardent les films, ils regardent. Finalement, ils s'achètent un popcorn et ils s'en vont parce qu'il n'y a aucun film qui répondait à leurs critères.
C'est quoi ces critères-là,
dans le fond, c'est vraiment simple. Premièrement, il faut qu'il y ait au moins deux femmes qui soient nommées. Donc, qu'il y ait un nom et ou un prénom. Je crois qu'un surnom, ça ne fonctionne pas.
Oh! Bébé!
Ça efface tous les films qu'il y a des prostituées.
Candy.
La deuxième règle, il faut que ces deux femmes-là, elles se parlent. Et finalement, la troisième règle, il faut que ces deux femmes-là se parlent de quelque chose qui n'a pas rapport avec un homme.
OK.
Ça semble vraiment simple entre nous. Ça a l'air vraiment simple, mais... Il y a vraiment beaucoup de films, en fait, qui ne passent pas le test. On parlait du deuxième acte tantôt. Le deuxième acte ne passe pas le test de Bechdel.
Juste une femme. Puis des figurantes, là. Mais
c'est ça. Mais il ne parle pas, puis il parle juste de choses par rapport au film. En tout cas. Mais c'est ça, je vous ai sorti une stat que sur le site, il existe un site qui s'appelle bechdeltest.com. Ça répertorie tous les films de l'humanité, là, et ils disent si le film passe ou pas. Et ils ont répertorié les films depuis 1877, et il y a seulement 57% des films qui passent le test.
C'est plus que je pensais. Ouais, honnêtement, là, surtout, mettons, entre 1897 puis 1970, mettons, là, ça doit être un creux de vague. Là.
C'est sûr que, dans les années 1900, c'est sûr qu'avant, là, ça allait moins bien. De nos jours, ça va quand même bien, là, je te dirais. Là. Ouais. On a une belle moyenne. Mais il y a eu une étude aussi là, par rapport à ça qui disait que dans 53% des films qui ont été écrits par des hommes échouent le test.
Ouais.
38% des films qui ont été écrits avec une femme échouent le test. Et 0% des films écrits seulement par des femmes échouent le test.
Quand même.
Puis j'ai fait là, mes petites recherches là, avant l'émission. Il y a plusieurs films, séries populaires qui ne passent pas le test. Lord of the Ring, la série de 2001-2003 ne passe pas. Le Roi Lion, le dessin animé de 1994 ne passe pas.
Mais là, ça inclut les lions aussi, les lions femelles.
Oui, les personnages féminins.
Les surnoms, ça marche pas, mais si c'est des animaux, ça, c'est correct. Là.
C'est la représentation féminine, Alexandre. Les Avengers ne passent pas. Spider-Man Into the Spider-Verse passe pas. La première saison de Stranger Things passe pas. La saison 1 et 2 de Big Bang Theory ne passe pas. Et plus récemment, Oppenheimer ne passe pas non plus.
Ouais, Oppenheimer, ouais. C'était rough. L'avez-vous vu? Non?
Non, même pas. Okay.
Tu sais, il y a deux femmes. Il y a essentiellement sa femme, puis il y a Florence Pugh qui est tout nu, tout simplement. Puis les deux se voient jamais. Puis je sais même pas. Ouais, sa femme, elle a un nom, mais l'autre, je sais pas. Fait que, ouais, bon. C'est sûr que ça passe pas.
Dans les
mais Barbie, il passait. Là,
Barbie, il passait. Ça, ben
ça,
oui.
Ça
contrebalance.
Ça aurait été bon que ça passe. Pas,
ouais. Dans les films qui passent, ben, on a Les Gardiens de la Galaxie qui passent. Les Hunger Games passent. Frozen passent. Et Twilight aussi. Ce qui m'amène à mon prochain point. Est-ce que, selon vous, le test de Bechdel, il est vraiment utile?
Utile, ben...
Ou pertinent, je ouais, dirais. Plus ça. Pertinent.
Tu sais, je pense pas qu'il faut essayer de faire un film en fonction de ça, nécessairement. Mais c'est comme bon à garder en tête, à savoir, tu sais, souvent, surtout les scénaristes, ou en tout cas les réalisateurs qui sont scénaristes, sont toujours comme, bon, comment est-ce qu'on écrit un bon personnage? Mm-hmm. Puis, ben... T'sais, Tarantino, il est bon pour écrire des bons personnages, de gars. Puis pas de filles, c'est normal parce qu'il connaît pas nécessairement la réalité, il fait juste filmer en gros plan à leurs pieds. Mais comme, tu sais, ça peut être de quoi, justement, garder en tête, de faire comment, mettons, là, mes personnages féminins, ils servent à quoi dans l'histoire? Ouais. Tu sais, je dis pas qu'au pire de pas en mettre, là, mais de comme, tu sais, est-ce que ça change de quoi, mettons, ce personnage-là, si c'est un gars ou une fille? Est-ce que je peux changer ça pour... Tu sais, puis que ça paraîtra pas, tu sais, je sais pas. Mais tu sais, je pense que c'est quand même pertinent pour peut-être nous ouvrir les yeux à ça. Cela dit, avec tu sais, je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui arrivent justement dans le domaine du cinéma, soit scénariste, réalisatrice. Fait que, tu sais, je pense que ça va contrebalancer ou en tout cas, ça va ajuster un peu les pourcentages. Mais tu sais, c'est bon à garder en tête, moi, je pense. Il y a plein d'autres codes au cinéma qui, je trouve, qui sont impertinents. La règle du 2 tiers ou je sais pas quoi. Tu sais, je me souviens plus comment ça s'appelle. Mais il y a la règle du 180, mais tu sais, il y a la règle de comme... OK, si tu filmes le même personnage, le plan d'après, tu es obligé d'avoir un angle de 30 degrés à côté.
OK.
Sinon,
celle
c'est
de 180
weird.
Dans 180, le deuxième acte, il pétait dans le stop.
Mais c'est ça, mais tu sais...
Ça coulait sens... bien.
Si on accepte ces règles-là, je sais pas pourquoi celle-là, elle serait pas pertinente.
Fait que là, compares-tu les femmes à
des objets immatériels? Non, mais c'est dans le sens, c'est bon à garder en tête. Comme toutes les autres règles, puis est-ce qu'on peut les transgresser à l'occasion? Je pense que oui, mais tu sais, pas tout le temps.
Oui, parce que c'est sûr que chez les féministes, il y a quand même un débat par rapport à ce test-là, parce que c'est pas parce qu'un film passe le test que c'est nécessairement une représentation positive d'une femme. Tu sais, je pense à Twilight. Oui, Bella est présente, puis elle parle d'autre chose que d'Edward, mais c'est quand même une pauvre petite victime qui a aucune... Tu sais, son personnage n'a pas de vie, n'a pas de chair, je dirais. Donc,
puis honnêtement, les critères, ils sont un peu...
Mais c'est très basique.
Vide, là.
Ouais, non,
mais
c'est
pas vide, mais t'sais, c'est ça, basique, t'sais, avoir un nom.
c'est oui,
je pense pas que c'est bon, t'sais, c'est une bonne représentation d'un personnage féminin si elle a un nom. Là. Mais
non,
t'sais, ces trois critères-là, t'sais, c'est ça. Ça nous montre effectivement de quoi, mais... Je pense qu'on pourrait même la resserrer un peu, cette règle-là.
Ben, c'est ça, en fait, parce que suite au film, la sortie du film Pacific Rim, le personnage de Mako Mori a suscité beaucoup de conversations, je dirais. Et ce film-là ne passait pas le test de Bechdel. Par contre, il y avait vraiment une belle... Le personnage avait quand même une belle profondeur, donc ils ont créé le test de Mako Mori. Et il y a trois critères à celui-là aussi, mais les critères sont un peu plus pertinents, je dirais. Le premier, c'est qu'il faut qu'il y ait la présence d'au moins un personnage féminin, évidemment.
Ouais.
Le deuxième, il faut que le personnage féminin ait son propre arc narratif. Donc, il faut qu'elle contribue à l'histoire, il faut que ce soit important, il faut qu'elle ait un rôle. Et finalement, il faut qu'il y ait une indépendance par rapport au personnage masculin. Donc, elle peut pas être juste le faire-valoir d'un homme, elle peut pas... T'sais, il faut qu'elle aille... son arc narratif puis que ça sert à quelque chose dans l'histoire.
Ouais.
Donc déjà là, c'est quelque chose là qui est un petit peu plus pertinent selon moi parce que ça permet à que c'est pas juste des belles chicks qui montent leurs fesses parce qu'on aime ça des belles chicks qui montent leurs fesses, mais c'est le fun de représenter des
faut
femmes fortes
noms.
Indépendantes et qu'il y ait des noms.
Faut qu'il y ait un bel arc narratif là, faut c'est ça.
Ouais, puis ben... ça éviterait des scènes, tu sais, on dirait comme qui coche genre oui, puis ça c'est Suzanne Tremblay. réceptionniste. Toi, tu joues au ping-pong. Et comme,
salut,
oui,
c'est pour un rendez-vous chez le dentiste. C'est comme, OK, parfait, c'est quoi ton nom?
Ben, ah, c'est ouais, ça. Ouais.
Mais c'est plus représentatif aussi parce que, tu sais, mettons, je pense au film I Am Legend. Bon, c'est un gars tout seul, mais comme, mm-hmm, mettons qu'on le fait avec une femme toute seule, que c'est le seul personnage de son film, ben, elle passe pas le test.
Ouais,
parce
ouais,
que...
C'est ça, c'est ça. Mais là, avec le Mako Mori, ouais, elle ouais, passe ouais, le test. Ouais. Puis toutes ces recherches-là, là, approfondies sur Internet, ça m'a fait tomber sur plein de tests. Je savais même pas que ça existait, mais il y a plein de groupes qui ont des tests comme ça. Donc, il y a le test de Vito Russo qui évalue la représentation des personnages LGBTQ2IA+. Il y a aussi le test de Duvernay qui évalue la représentation des personnages de couleur dans les films. Et mon préféré, c'est « The Sexy Lamp Test oh. ». Ça, dans le fond, le test, c'est que est-ce que si tu remplaces ton personnage féminin par une lampe sexy, ça change quelque chose? Et sinon, la créatrice de ce test-là dit « You're a jerk ».
Ben, mettons, en Fast and Furious, là, ça marcherait pas parce que...
Elle peut pas toucher la pédale du gaz puis du break en même temps.
Elle peut pas changer ouais, les gears pendant que tu tires du gun.
Mais tu sais, j'ai quand même réussi à...
Mais la fille est souvent assise dans le passager, par exemple.
Ouais, ben c'est ça. Elle change les vitesses.
Ouais, mais tu sais, ça sert à rien.
Non.
C'est le gars, il est capable de changer les vitesses.
Pas s'il y a une mitraillette dans les mains.
C'est sûr, c'est
la phrase « family » ou je sais pas quoi, « family first », ça marche pas si t'as une lampe. Une lampe dans sa famille, je sais pas.
Cas, ça, c'est très hétéronormatif,
ouais,
Alexandre.
Ouais, je sais.
Puis, tu sais, il y a j'ai trouvé trois films qui échouent le test de la lampe sexy.
Oh.
On a
oh,
Batman de 1989,
non,
Transformer de 2007 ouais, okay, et Skyfall de 2012.
Ça, c'est donc, avec Megan Fox, là, t'as Transformer.
Ouais.
Ouais.
C'est ça. Skyfall, ah ouais. Même M,
donc,
qui joue par une femme.
Shame on you.
Ouais. Ben, merci beaucoup, Max. On va se coucher moins niaiseux et plus shamé, j'imagine. Je vais garder ça en tête quand je regarde mes films à l'avenir aussi. Puis je vais essayer de ne pas revisiter trop de mes classiques pour ne pas être déçu. Merci beaucoup, Max. On s'en va. Écoutez, on fait la chronique que j'ai réalisée avec Maxence Gagné sur Canis Attaqué, 270 ans de résistance. Et puis après, ben, on vous parle de Vous n'êtes pas seul qui prend l'affiche cette semaine. Restez des nôtres. Vous êtes de retour à Ciné Histoire et je rejoins mon collaborateur Maxence Gagné. Salut Maxence, ça va bien?
Oui, toi?
Oui, ça va super bien, merci. Aujourd'hui, tu voulais nous parler en fait d'un film pas mal assez fort dans l'histoire du cinéma québécois et même du cinéma canadien en tant que tel. Un film d'Alanis Obomsawin où d'ailleurs tu es allé à une exposition sur sa carrière, mais tu voulais nous revenir en fait sur le film phare de sa carrière qui est Canis Attaqué, 270 ans de résistance.
Oui, c'est ça. On en revient. J'ai choisi particulièrement d'aborder ça, sa carrière à elle, à Alanis Obomsawin, et ce film-là en particulier, parce qu'il y a deux semaines, on avait parlé de John Ford, puis mm-hmm, on notait des fois que comment les peuples autochtones étaient montrés, c'était pas tout, c'était archaïque, disons. Donc là, on change complètement de registre en abordant la carrière d'une réalisatrice autochtone, ben, dans ce cas-là, Abenakis, qui a focusé vraiment toute sa carrière là-dessus. Puis ça permet, comme elle le dit souvent, de voir l'envers de la médaille, de voir le côté de l'histoire qui a été occulté des livres d'histoire ou des films plus mainstream. Dans le cadre, justement, ben je trouvais que c'était approprié parce que présentement, il y a une exposition puis ça nous permet de... C'est sa carrière... Ça permet de projeter une lumière sur sa carrière présentement.
Et puis, dans le fond, c'est ça, ce film-là relate un peu le conflit, la crise d'Oka, oui, là, de 1990. Une crise assez spontané quand même, là, un conflit qui est basé sur une, une stupidité, littéralement, mais qui est un peu la culmination là, de 270 ans, comme elle l'explique un peu dans le documentaire, là, mais de résistance ou de conflits territoriaux entre les Mohawks, dans ce cas-ci, et la population québécoise ou canadienne. Veux-tu que je mette un petit peu en contexte la crise ou est-ce que tu veux le faire?
Ben, je peux en glisser quelques mots. Là, dans le fond, c'est C'est ce qu'on appelle fréquemment ici la crise d'Oka, mais Alanis Obomsawin, comme tu l'as dit, préfère l'appeler la résistance de Kanasatake parce que ben, pour elle, ça s'inscrit dans toute une historique de revendications territoriales qui date de l'arrivée des premiers colons. Mais l'enjeu qui nous concerne particulièrement dans ce film-là est ben, beaucoup plus récent. Là. C'est en lien avec l'extension d'un golfe. Pour le faire passer, il y avait déjà 9 trous. Ça avait déjà causé, des conflits en 1961 là, lors de la construction. Mais là, le maire d'Oka voulait l'agrandir à un 18 trous. Puis il a pas fait, il est pas passé par les conseils autochtones, les Mohawks de Kanasatake. Il les a pas consultés lors de la construction, lors de l'expansion. Puis il a peut-être, parce qu'en tant que tel, contrairement à Kanawake, Kanasatake c'était pas une réserve. Donc le terrain, leurs revendications sur ce terrain-là n'ont jamais fonctionné, mais pourtant l'extension de ce terrain de golf-là se situait sur un cimetière ancestral Mohawk. Puis c'est là que à un moment donné, les Mohawks, le nom qu'eux ils donnent, c'est les Kanyenkaheka, mais par souci de prononciation, ouais. Je vais continuer à dire Mohawk. Donc, ils ont mis leurs pieds à terre. Au début, ils ont juste bloqué un chemin de terre qui menait au projet d'expansion. Au final, ça s'est comme un peu... Ça s'est amplifié. Entre autres, nous, on a vu beaucoup... Ce qui a passé beaucoup de nouvelles, c'est quand les Mohawks de Kanawake ont bloqué le pont Mercier. Là. Mm-hmm. Après ça, les Mohawks de Kanasatake ont... Au début, bloqué juste le chemin de terre, mais ils ont commencé à bloquer la route, l'autoroute. Là. Mm-hmm. C'est là que la SQ a décidé d'intervenir... qu'il y a eu une fusillade dans laquelle un caporal est décédé, le caporal Lemay. On ne sait toujours pas, c'est toujours pas clair qui a tiré la balle, qui l'a tué. Mais dans le fond, la SQ s'est retirée, l'armée canadienne a embarqué. C'est pas mal ça que le film va retracer. Là. C'est l'arrivée des 4500... au total, durant la crise, il y a eu 4500 soldats canadiens déployés là. Ce qui étonnamment est plus important que les soldats. Il y a eu 4000 soldats déployés lors de la guerre du Golfe Persique. Fait que pour une manifestation, c'était on va quand même spécifier que les Mohawks étaient armés, mais pour ces revendications-là qui avaient lieu en sol québécois et canadien, il y a eu quand même 4500 soldats déployés là. Mm-hmm. Contre environ, les chiffres varient du côté Mohawk, là, c'est pas clair, mais entre une cinquantaine et 600. Là, à la fin, c'était plus clair que dans le centre de traitement, il y avait comme... Ouais, 50 personnes. 50, mais là, on va s'arrêter là et parler peut-être du film aussi.
Ben oui, c'est ça. Ben, parler du film, mais peut-être aussi parler un peu du contexte qui a amené Alanis Obomsawin à s'intéresser à ce conflit-là, puis a amené aussi une perspective de l'intérieur, là, ce qui, je crois, personne d'autre aurait pu faire là, comme elle l'a fait. Là. Parle-nous un peu de justement comment lui est venue justement l'idée de vouloir documenter tout ça.
Ben c'est elle, quand elle a vu ça la première fois aux nouvelles, elle s'est dit tout de suite, quand elle a appris la nouvelle, qu'il fallait qu'elle aille là-bas documenter la situation. Puis elle était dans une position, je dirais, elle est autochtone elle-même. Donc, elle était consciente qu'elle apportait un regard que les médias traditionnels ne pouvaient pas apporter. Et là... puis elle est allée là-bas sans l'accord de l'ONF parce que elle avait fait auparavant quelques films un peu politiques. L'ONF les avait projetés, mais elle avait quand même eu quelques résistances. Là, elle s'est dit je vais agir avant que quelqu'un puisse essayer de me dissuader. elle va là-bas, derrière les barricades, ce qui est pas permis en tant que tel. Là, les membres des médias ne pouvaient pas faire ça, là, Radio-Canada, etc. Mais elle va aller derrière les barricades puis rester là durant les 78 jours que le conflit va durer. Pour être certaine que C'est parce qu'il y avait aussi une peur, puis on voit ça à travers les intervenants dans le film, que si c'était pas enregistré, il y aurait pu avoir des dérives de la part du gouvernement canadien. Là.
Mm-hmm.
Fait qu'il est comme, pour elle...
Elle fait un peu un contrepoids à l'espèce de discours médiatique dominant, ouais, si on veut. Là. Puis, tu sais, ça aussi, ça prend quand même une part quand même assez importante. La place du journaliste à travers tout ça, on voit à plusieurs moments les journalistes de CBC, de plusieurs justement chaînes de télé, de radio québécoises, parfois se faire refuser les accès à, mettons, une intervention quelconque, peu importe. Ce qui n'est pas... Ben, je veux pas dire que c'est pas une chose commune. Là. C'est plus l'exception que la règle. Tu sais, dernièrement, je pense qu'il y avait tous les mouvements Black Lives Matter aux États-Unis où, justement, ça aussi, ça avait fait un tollé par rapport à la couverture médiatique qui en avait été faite. Il me semble qu'il y avait un journaliste de CNN qui s'était fait arrêter en plein direct, là, aussi. Mais, justement, c'est outre la documentation un peu ou ce contrepoids-là que Alanis Obomsawin nous offre avec ce documentaire-là, ben, c'est aussi justement une grosse réflexion sur le journalisme de guerre, ou ben, en tout cas de guerre, entre gros guillemets, là, je vais le dire quand même, ouais, parce que l'armée était déployée, là, mais c'était pas une guerre. Là. C'est vraiment une région très militarisée. Puis, une espèce de... Puis, tu sais, je sais pas, je l'ai pas vécu non plus le contexte, mais j'en ai lu beaucoup, puis ça a fait beaucoup jaser. Je me souviens, mes parents, quand j'étais jeune, me parlaient de la crise d'Oka, puis de tout ça. Tu sais, on est à l'ère post-guerre du Vietnam, où, tu sais, qui était pas mal le premier conflit armé qui était très télédiffusé et tout. Puis j'ai l'impression que ce conflit-là est comme devenu là une espèce de télé-réalité pour le reste du Québec. Oui, on en entendait parler parce que le pont Mercier était barré et tout, puis ça braquait un peu là, les Québécois versus les Premières Nations. Mais justement, ce contrepoids-là était nécessaire et même essentiel à la compréhension totale de ce conflit-là. Puis, c'est ça, ces images d'archives-là, après ça, c'est beaucoup plus ces images à elles qui ont circulé puis qui sont restées dans notre mémoire collective que celles des autres postes de télévision, là, par exemple. Ça, je trouve que c'était vraiment un aspect intéressant, tu sais, qui n'est pas principal non plus au documentaire. Reste que ce qu'elle veut nous montrer, c'est vraiment justement cette série de confrontations-là ou l'escalade des tensions qui a culminé vers ce truc-là stupide d'expansion de terrain de golf. Mais moi, c'est ces réflexions-là qui m'ont beaucoup parlé en tant que journaliste aussi. T'sais, qu'est-ce qu'on peut regarder? Qu'est-ce qu'on peut documenter? Là, ma parenthèse part très, très loin aussi, mais tu sais, le documentaire qui a gagné l'Oscar du meilleur documentaire l'année dernière, ben, c'est 20 jours à Mariupol, qui était justement aussi, qu'est-ce qu'on peut... Est-ce qu'aller à l'intérieur même du blocus russe à Mariupol, en Ukraine, puis documenter les horreurs qui s'y passent? Tu sais, il y a des parallèles, même si c'est à plus petite échelle, il y a des parallèles à faire avec d'autres conflits armés où, justement, cette représentation-là est toujours un peu one-way, et puis il n'y a pas toujours ce contrepoids-là, ou en tout cas, il faut faire un effort pour offrir ce contrepoids-là. Moi, c'est vraiment des trucs qui m'ont parlé dans ce documentaire-là. Je ne sais pas si pour toi, ça a résonné autant que pour moi, là.
Ben c'est certain, parce que là, tu sais, on voit que vraiment être à un endroit où elle n'est pas désirée par l'armée. Il y a d'autres journalistes qui se rendent justement derrière les barricades comme elle. Puis, tu sais, à un moment donné, il y en a un qui veut... L'armée veut pas lui donner ses médicaments parce que, bon, t'es de l'autre côté des barricades, on n'est pas autorisé à parler aux journalistes qui sont de l'autre côté des barricades. T'sais, dans une situation... ça permet... J'avoue aussi, ça permet de... d'interviewer du monde, d'avoir des réactions de l'autre côté des barricades, que peut-être quand t'es à 50 pieds dans ton bunker puis tu travailles pour Radio-Canada, la version que t'as, tes points de contact, c'est pas les Autochtones derrière les barricades, là, c'est les points de presse de l'armée, là, pis c'est
très très fades, là, on s'entend, là, ils suivent un script, ils dérogent pas, puis moindrement, des réponses de politiciens, là, justement, de comme on peut pas confirmer ou nier tel fait, ou peu importe, puis là, c'est cette cote-là qui va aller aux nouvelles, pas celle de, je sais pas, là, de, justement de l'intérieur. C'est vraiment... C'est, ouais, vas-y.
Je trouvais que ce qui était intéressant de voir dans ce film-là, c'est, du point de vue de la Nessebum Sawin, on voit que les Autochtones, ils sont pas là pour créer du conflit inutilement. Ils sont pas là pour... Il y a une bonne partie du... Il y a une partie du film qui se concentre sur un personnage... un négociateur Mohawk qui s'appelle Matt Japp, là, mm-hmm. Robert Skeeders, il prend... Dans la seconde partie du film, il prend de l'importance. Là, tu le vois négocier avec... avec les majors de l'armée canadienne, puis essayer de calmer ses propres troupes. Puis, mm-hmm. Tu vois, il y a eu effectivement des moments où les tensions ont monté, mais je dirais aussi des deux bords. Là, il y avait pas l'intention que ça refasse la fusillade qu'il y avait eu peut-être le 11 juillet contre la SQ. Là. Peut-être que sans la présence de la Nessebum Sawin, ça aurait pu. On le saura jamais, on spécule, mais ça aurait pu être beaucoup plus facile pour l'armée de dire que les négociations étaient one-way, puis que mm-hmm. les Mohawks ne voulaient pas collaborer. Mais là, tu vois, d'avoir la perspective de l'intérieur, de savoir pourquoi ils font ça, parce que eux, ils ont une cause, là, contrairement à. Ils ont une cause à défendre, puis ils sont prêts à négocier pour l'avancement de cette cause-là.
Parce que, tu sais, les demandes ne sont pas non plus extravagantes. Là. Les demandes, c'est essentiellement « volez pas nos terres ».
Ouais,
c'est des demandes très de base. Là, on s'entend, c'est pas comme « on veut que vous nous donniez le village » ou « que vous nous payiez tel ou tel montant » ou peu importe. Tu sais, il y avait une série de recommandations, mais de revendications, mais tu sais, qui tournaient essentiellement autour de « faites pas le projet » puis on arrête nos manifestations. Puis, tu sais, il a fallu justement cette escalade-là, il a fallu des déboires aussi de l'autre côté du Saint-Laurent, tu sais, à Châteauguay, une espèce de lapidation publique des gens qui quittent la réserve, barrage du Pont-Mercier, il y a les gens de la réserve d'Aquassassiné aussi qui s'en sont mêlés. Tu sais, c'est une crise à petite échelle, mais qui a montré un peu. Puis, tu sais, c'est peut-être pour ça aussi, tu sais, il y en a eu d'autres conflits du genre, tu sais, notamment, je sais pas moi, 2012, le printemps érable, les revendications justement pour les hausses des frais de scolarité. Puis jamais l'armée est allée jouer là-dedans. Alors que là, tu sais, rapidement, l'armée est devenue comme... quasi, pas essentiel, mais tu sais, pour le gouvernement du Canada, c'était comme, ils sont impliqués rapidement là-dedans, probablement parce qu'ils ont plus à gagner aussi que le gouvernement du Québec, là, tu sais, je sais pas quel précédent il y avait peur que ça crée, là, mais on sait que le fédéral a pas des super bonnes relations avec les Premières Nations. Tu sais, le Canada s'est braqué rapidement et rapidement devenu sur la défensive, puis là, ben, ça devenait quasi... impossible pour quelqu'un, à part peut-être quelques golfeurs d'Oka, là, d'être pour la cause de l'armée ou du Canada. Puis, tout le monde s'est pas mal rallié. Tout le monde de l'extérieur, en fait, s'est beaucoup rallié à la cause des Mohawks, mais ça a créé des tensions vraiment un peu partout et surtout proche des réserves de la rive sud. Là. C'est vraiment un très beau documentaire, vraiment un très bon devoir d'archivage aussi. T'sais, on comprend effectivement que c'est pas... en rétrospective, je pense que c'est peut-être pas le documentaire qui nous en apprend le plus sur le conflit. Il fait une belle capsule là, d'animation, là, je crois, mais t'sais, un bon recap justement de ces à qui appartient cette terre-là. Bon, OK, ils ont été donnés aux Autochtones, mais finalement, rien n'a été signé. Fait que en tout cas, la conquête des anglophones sur les francophones, ben ils ont fait, ben vous avez pas de document, donc la terre appartient à je sais pas trop quel clergé qui était là ou quel... quel truc religieux qui était là. Mais c'est ça, cette espèce de flou religieux, ben ce flou, en fait, de d'à qui appartient la terre. C'est pas mal les prémices de ça. Et après ça, il va y avoir de nombreuses revendications. Maintenant, c'est rendu chose commune de dire que tel événement ou telle ville se trouve sur des territoires non cédés. Ça a fait probablement avancer le discours en ce sens-là. Mais à l'époque, c'était des trucs, pour la plupart, je pense qu'il y a des Québécois qui apprenaient qu'il y avait des tensions entre les Autochtones puis des Québécois. Je trouve que pour avoir... Ça aura permis au moins d'avoir présenté, c'est ça, l'autre côté de la médaille, puis d'avoir fait peut-être un peu avancer le discours, même si à chaud, dans les premières années, suivant la crise d'Oka, c'était peut-être pas le meilleur lieu de discussion. Mais à terme, justement, parce que ce documentaire-là a été diffusé, parce que c'est ça, pour tout ce que ça implique, je pense que ça en fait un des films les plus importants de notre cinéma. Donc, de ton côté, Maxence, Canis Attaqué, c'est un film à voir, un film qui, tu penses, s'est inscrit durablement dans... c'est assurément le film qui a fait connaître Alanis Obomsawin, mais c'est un leg important dans notre patrimoine québécois.
Ben, je pense effectivement là, que c'est un film qu'on ne peut pas manquer si on parle du cinéma canadien ou québécois. Ça a vraiment marqué notre perception dans l'imaginaire collectif du conflit de la crise d'Oka. Autant parce que c'est des images, comme tu disais avant, qu'on a revues très fréquemment. Après ça, je sais que la carrière d'Alanis Obomsawin s'inscrit tout le temps dans cette... mouvance-là d'offrir des images différentes. C'est pour ça qu'il faut en parler. À travers les 50 ans des films qu'elle a fait, on peut voir vraiment l'évolution des relations entre les Québécois et les nations autochtones. Elle a fait ça sur plus de 50 ans. Et donc, c'est pas juste c'est pas un échantillon. Quand on regarde ces films, c'est pas un échantillon qu'on a d'une brève période, mais vraiment un témoignage sur le long terme. Puis ça, je pense que c'est inestimable. La quasi-totalité de ces films sont disponibles sur l'ONF, fait que je recommanderais aux gens de les regarder. Et puis, d'ailleurs, il y a même une exposition, comme on en a parlé plus tôt, une exposition au Musée d'art contemporain à Montréal. Si les gens sont prêts à se déplacer, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a une grande valeur. Puis...
Oui. C'est d'une des pionnières vraiment du cinéma des Premières Nations au Québec.
Effectivement. Puis c'est étrange qu'on ait vraiment pensé à ça, nous, à l'ONF, qui ait pensé à ça en 1970. Mm-hmm. Tandis que Hollywood faisait encore des films. John Ford n'avait pas encore pris sa retraite, mais l'ONF a été quand même un peu précurseur en engageant Alanis Obomsawin comme consultante dès les années 70. Puis c'est une décision qui a vraiment payé parce qu'on voit qu'encore 50 ans plus tard, on en parle encore. Elle n'est pas connue juste au Canada, mais à travers le monde. Il y a eu une rétrospective à New York il y a quelques années de sa carrière à elle.
Oui, puis même ce film-là, Canis Attaqué, justement, oui, il est sur l'ONF, puis je vous encourage à y aller, mais il était aussi sur Prime, puis sur Tubi. Ce qui montre là, que, justement, je pense que ça a une valeur, même au-delà de notre passé, au-delà d'un public québécois, là, ça a vraiment une valeur une portée très internationale. Ben, écoute, Maxence, merci beaucoup de ce tour d'horizon de Canis Attaqué, 270 ans de résistance. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
Merci à toi de m'avoir invité.
Un jour, je vais faire un film. J'ai déjà écrit le script, et dans le scénario, il n'y a pas du tout de tragédie.
Vous êtes de retour à Ciné Histoire et on a perdu Alex pour en gagner un autre. Oui. Alex Bayergeon qui rentre en studio. Ça va, Alex?
Oui, ça va bien.
Cette semaine, on a vu un film québécois qui va prendre l'affiche un peu... aujourd'hui, en fait. Mm-hmm. Qui prend l'affiche aujourd'hui, mais qui est en après-première demain à la Maison du cinéma. C'est Vous n'êtes pas seul de Philippe Lupien et Marie-Hélène Vien. Film comédie romantique... science-fiction-ish.
C'est ça, beaucoup de choses. Si je me souviens bien, dans une entrevue qu'il avait accordée, il y avait eu l'idée de base d'avoir des extraterrestres parmi nous, puis éventuellement, l'histoire d'amour est arrivée là-dedans. De la vie de plusieurs, la bout histoire d'amour est quand même crédible. C'est le mieux fonctionne fait, bien. Là, c'est comme ça. Le bout intéressant du film. Puis tu rajoutes quand même François Papineau en extraterrestre très, très creep et très, très étrange qui veut kidnapper Pierre-Luc Funk. Là, mais ouais. Pour l'amener nice. Où? On le sait pas. Pour faire quoi
d'un frigo,
avec?
Pour l'amener d'un frigo.
Ouais, pour l'amener d'un frigidaire. Mais pour faire quoi avec? On ouais. le sait pas. L'amener où? On le sait pas. Puis il va arriver quoi, Pierre-Luc Funk? On le sait pas. Ouais. Fait que tu sais, puis ça, c'est peut-être le truc qui est un peu plus dommage dans le film, c'est qu'il y a beaucoup de questions, mettons, qu'on peut se poser en sortant de là en voulant. Tu sais, parce que c'est ça, il vient, personnage d'extraterrestre de Papineau, il devient tellement obsédé qu'on se demande pourquoi il devient si obsédé que ça par Funk en tant que tel. Tu sais, pourquoi il veut absolument kidnapper ce jeune garçon-là, précisément. Puis c'est pas expliqué non plus d'où qu'il arrive, pourquoi qu'il est là, que sa bosse ouais. c'est Micheline Langteau, que tu sais il y a beaucoup de... c'est très intriguant, tu sais, pour ça marche, on veut quand même voir la suite de pourquoi qu'ils vont faire ça, puis on finit pas toutes les pistes à la fin du film, tu sais, il y a quelques trucs qui coupent court un peu, puis ok, ben ça va être ça, puis ouais. that's it.
J'essaie de résumer vite là, tu sais, on suit Pierre-Luc Funk, ben qui interprète Léo, qui est en peine d'amour depuis un an, qui est livreur de nuit dans la pizzeria familiale, et puis là ben il tombe en amour avec Rita, qui est jouée par Marianne Fortier, qu'on a vu notamment dans Aurore l'enfant martyr. Mm-hmm. et puis c'est ça c'est la trame principale, une comédie romantique quand même assez classique. Puis c'est ça, là, après ça, toute cette trame-là avec les aliens de François Papineau et tout. Je me souviens que, ben c'est ça, toi, t'étais pas très convaincu par le film. Moi, j'en garde quand même un souvenir positif, somme toute, parce que je trouve que c'est quand même dur de bien réussir une romance dans un film. Tu sais, une romance quand même un peu poignante. Puis effectivement, comme celui-là tu mentionnais, ouais. c'est ça, c'est vraiment le meilleur bout du film. Il y a des bouts un peu moins réussis. Bon, on copie le concept de scène de M. Night Shyamalan avec mm-hmm. les casques d'aluminium. Beaucoup de références à des films de science-fiction. Tu sais, Poltergeist, un peu... d'une certaine kind façon. Of, ouais, c'est pas, c'est, le, pas c'est, le même alien.
Mais c'est
attachant.
Dit. Tu sais, les réalisateurs disent qu'ils se sont inspirés de plusieurs autres films de science-fiction pour arriver au leur. Mais moi, peut-être le seul reproche que j'y ferais, c'est 1h46, pas si long, mais j'ai l'impression que ça n'avait duré peut-être 2h15 parce que ça manque de rythme un peu.
Ouais,
c'est peut-être le principal truc que je dirais, c'est que certaines scènes auraient eu le mérite d'être soit un peu plus punché, soit juste on arrive plus rapidement au punch. Tu sais, la scène de souper, on a l'impression qu'ils ont fini leur assiette pour vrai, là, tu sais, tellement qu'il y a des trucs un peu plus lents, je dirais, même si ça contribue, mais il y a certains trucs qui auraient le mérite d'être resserrés. Peut-être qu'il y a comme un petit 10 minutes qui pourraient être retranchées.
J'ai l'impression qu'on regardait deux courts-métrages parallèles qui sont mergés ensemble.
C'est vrai.
Puis, François Papineau il est très dévoué dans son rôle, mais ça marche pas tout le temps non plus. Puis on sait pas si le niveau, c'est comme... Tu es supposé être drôle là ou c'est maladroit là, ce qu'on est en train de voir.
C'est vrai.
Notamment une scène où il se commande la pizza.
Ouais, ça, c'est... Plus, mais... c'est ça. Mais faut avoir en tête, c'est un extraterrestre qui commande la pizza. Fait que c'est un peu étrange.
Puis qui est un creep en même temps.
C'est là, ça, puis qui est creep. C'est ça. Fait qu'il y a comme... c'est ça. Il y a plusieurs niveaux, mais tu sais, c'est pas mauvais. Il faut vraiment se faire sa propre opinion parce que justement, ça semble divisé de j'ai rien compris à quelle belle fable sur la solitude et nanana. Mais c'est ça, c'est... faites-vous votre propre opinion.
Oui, c'est ça. Puis visuellement, le film est intéressant aussi. Oui. Il y a eu une mention spéciale au TIFF un peu plus tôt cette année. Pierre-Luc Funk, bon, il joue encore Pierre-Luc Funk, là, comme on le connaît. mais globalement, tu sais, moi j'ai plus aimé ça que la moyenne. Les critiques commencent à rentrer. Puis moi, j'ai quand même passé un bon moment. Puis il y a eu beaucoup de symbolisme que j'ai pas été capable de décoder. Puis je sais pas si je vais vouloir me casser la tête, essayer de les décoder ou pas. Mais tu sais, sur l'eau, sur vous n'êtes pas seul, justement, tu sais, une double solitude, tu sais, oui, des aliens. De vous n'êtes pas seul sur Terre ou dans l'univers, mais vous n'êtes pas seul parce que c'est une peine d'amour, puis c'est ça, c'est un film un peu sur pas la dépression, mais pas loin. Dépression adjacente. fait que c'est ça, mais comme tu dis, il faut faire sa propre opinion. Et pour répondre à la question que tu nous as pas posée encore, non, ça ne répond pas au test de Bechdel. Non, malheureusement. Mais c'est pas grave. C'est un film correct pareil.
Ben, tant mieux. Pareil. Ben, je sais pas.
Ouais, c'est ça. c'est ça. Donc, vous n'êtes pas seul. Ça prend l'affiche aujourd'hui à la Maison du cinéma. Si vous voulez voir Pierre-Luc Funk demain, c'est encore une fois à la Maison du cinéma à 19h. J'aimerais remercier Alex qui n'est pas là, qui le travail l'a rattrapé. Mais oui, c'est ça, il nous a quittés. On le retrouvera peut-être la semaine prochaine. Remercier l'autre Alex et remercier évidemment Maxime Bonneville qui nous a parlé justement de ce test-là qui a ouvert nos horizons. J'espère que tu as aimé ta première expérience. C'est la première fois que tu viens à Ciné-Histoire.
À Ciné-Histoire, oui. C'était bien fun. Là, je vais sûrement revenir.
Ben, c'est ça. On regarde des films puis viens nous en parler.
OK.
On est toujours preneurs. Merci beaucoup à Maxence Gagné, également mon collaborateur. Et on se retrouve la semaine prochaine, même en même poste, pour un autre épisode de Ciné-Histoire. Bon week-end et bon cinéma.